22h passées de 15 secondes, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal.
Les premiers cas avérés, attestés d'ailleurs par les Chinois eux-mêmes, ne proviennent pas du fameux marché aux poissons et aux animaux sauvages.
La presse américaine s'interroge et fait grandir le soupçon. Ce coronavirus se serait-il accidentellement échappé non pas d'un marché, mais d'un laboratoire chinois mal sécurisé? Hypothèse qui n'est pas sérieuse, disent de nombreux scientifiques, mais face au manque de transparence de Pékin, elle prend de l'ampleur. En France, le soulagement pour les seniors qui avaient peur de rester confinés après le 11 mai. Ce soir, l'Élysée dit qu'il n'y aura pas de discrimination, mais un appel à la responsabilité de chacun. Cette information, Europe 1, la ministre de l'Enseignement supérieur précise que les concours d'accès aux grandes écoles seront reprogrammés entre la fin juin et le début août.
Les épreuves se dérouleront entre le 20 juin et le 7 août. Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité des candidats.
Le nombre de marins du Charles de Gaulle contaminés par le coronavirus augmente encore, plus de la moitié de l'équipage. Les explications d'Hélène Terzian dans cette édition. L'épidémie est sous contrôle en Allemagne, nous dira Hélène Kohl en ligne de Berlin pour Europe 1. Et puis, vous l'avez entendu, les hommages se succèdent après la disparition de Christophe, une part de l'âme de la chanson française, un couturier de la chanson, une référence en tout cas pour les nouveaux talents de la scène qui reprennent ses tubes. Et comme tous les soirs, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit aujourd'hui Laurent Melchior, le co-gérant du groupe Etam. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com et les prévisions météo complètes d'Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais d'où sort ce nouveau coronavirus qui, en 24 heures dans notre pays, a tué 761 personnes supplémentaires, 18 681 décès chez nous depuis le début de cette épidémie? Ce coronavirus provient-il, comme on l'entend depuis le début, d'un marché en plein air vendant des animaux exotiques ou d'un laboratoire de Wuhan mal sécurisé? L'administration américaine lance une enquête exhaustive pour en déterminer l'origine. Et comme l'on ne sait pas grand-chose des investigations menées par la Chine, c'est le moins que l'on puisse dire, forcément, Théo Manval, les médias aux États-Unis s'intéressent à la thèse de l'accident de labo, à prendre tout de même avec de grosses pincettes.
Oui, et à l'origine, ce sont ces révélations il y a quelques jours du Washington Post. Des diplomates américains, dit le journal, ont visité à plusieurs reprises l'Institut de virologie de Wuhan il y a 2 ans et ils ont envoyé 2 avertissements officiels à Washington pour alerter sur les carences en matière de sécurité, d'étanchéité si vous voulez, alors qu'y étaient menées des études sur les coronavirus provenant de chauves-souris. L'information a fait grand bruit au point que certaines figures controversées comme le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, avancent aujourd'hui que ce nouveau virus y aurait été créé de toutes pièces. Déclaration fracassante sur le site Pourquoi Docteur.
Le génome complet de ce nouveau virus a des séquences d'un autre virus qui est le virus du sida. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Je pense, enfin c'est l'hypothèse la plus raisonnable, qu'il voulait faire un vaccin contre le VIH.
Mais cette hypothèse d'un virus créé par l'homme est battue en brèche par l'essentiel du corps scientifique, à commencer par l'Institut Pasteur qui a étudié son code génétique. Des points communs avec d'autres virus sont fréquents et rien ne permet de dire ici qu'il y aurait eu intervention humaine, assure un chercheur. Reste cette piste, donc, d'une fuite par accident. L'historien François Godemont est spécialiste de la Chine à l'Institut Montaigne.
C'est bien sûr la plus explosive. Elle n'est pas démontrée. Il n'y a pas de preuves. Il y a simplement quelques indices. Premièrement, les premiers cas avérés, attestés d'ailleurs par les Chinois eux-mêmes, ne proviennent pas du fameux marché aux poissons et aux animaux sauvages. Deuxièmement, la Chine ne donne pas accès aux premiers spécimens du virus lui-même.
Et la Chine continue d'ailleurs de démentir, mais sans convaincre, le chef de la diplomatie américaine annonce l'ouverture d'une enquête.
Merci Théo Manval. Et ce soir, alors que les États-Unis déplorent plus de 33 000 décès du Covid-19, Donald Trump met de nouveau la pression sur Pékin. Dans un tweet dont il a le secret, le président américain affirme que le nombre de morts en Chine est bien plus élevé que le bilan officiel et au-dessus de celui des États-Unis, ajoute le président américain. C'est une précision du président de la République qui va soulager les seniors. Emmanuel Macron ne souhaite pas de discrimination des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif le 11 mai. C'est un communiqué de l'Élysée ce soir qui explique que le chef de l'État en appellera à la responsabilité individuelle de chacun. Mercredi, souvenez-vous, le président du conseil scientifique du gouvernement, le professeur Delfraissy, avait évoqué une prolongation du confinement pour les personnes d'un certain âge, de 65 ou 70 ans. Alors comment organiser le déconfinement? Quelle organisation pour le pays dans les mois à venir? Nous devrions en savoir davantage dimanche après-midi. Le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Santé, Olivier Véran, feront ensemble un point complet sur la crise. C'est ce que promet Matignon. Déjà, une information importante, c'est une information Europe 1. Les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront organisées entre la fin juin et le début août cet été. Précision apportée tout à l'heure par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle était l'invitée de Nathalie Lévy.
Toutes les épreuves des concours d'entrée dans les écoles à l'issue des classes préparatoires ont effectivement été reprogrammées. Les épreuves se dérouleront entre le 20 juin et le 7 août. Ça concerne plusieurs centaines d'écoles et plusieurs centaines de milliers de candidats. Des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, toutes les écoles qui sont accessibles par concours après les classes préparatoires aux grandes écoles. En termes de logistique, évidemment, toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité des candidats comme la sécurité des surveillants d'ailleurs, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur.
Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Nathalie Lévy dans le Grand Journal du Soir sur Europe 1. Décision attendue, le Conseil d'État a tranché et limite le pouvoir des maires dans la lutte contre le coronavirus. La plus haute juridiction administrative du pays a confirmé l'annulation d'un arrêté du maire de Sceaux qui a imposé le port d'un masque de protection dans sa commune. À Lille, la maire socialiste Martine Aubry dit aujourd'hui qu'elle ne voit pas comment rouvrir les écoles le 11 mai en gardant les distances, comme le préconise les règles sanitaires. Le maire de Tulle, Bernard Combes, un proche de François Hollande, est lui aussi opposé à cette réouverture des écoles dans sa ville le 11 mai prochain. Il faut poser les conditions d'une reprise progressive, selon lui. C'est un changement qui interviendra le 1er mai. À la fin de ce mois, les parents qui ont dû cesser de travailler pour garder leurs enfants vont passer du régime de l'arrêt maladie à celui du chômage partiel, une bascule qui s'appliquera aussi aux salariés considérés comme vulnérables face au coronavirus, donc souffrant notamment d'une infection de longue durée. Aurélien Fleuron, c'est forcément la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça change ?
Alors pour les personnes concernées, soit un peu plus de 2 millions de salariés, cela va permettre de ne pas subir une nette baisse de leur indemnisation, puisque le régime d'indemnité journalière prévoit qu'à partir de 30 jours d'arrêt maladie, ce que vous touchez passe de 90% du salaire net à 66%. Et comme les 30 jours seront forcément dépassés avec un confinement qui va durer au moins jusqu'au 11 mai, ce basculement vers le chômage partiel permettra de recevoir 70% du salaire brut, soit environ 84% du net. Ce sera 100% du salaire pour les personnes rémunérées au niveau du SMIC. Donc plus d'arrêt de travail à partir du 1er mai, sauf pour les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. Pour eux, rien ne change. Un nouveau dispositif qui va donc encore faire grimper le nombre de personnes placées en activité partielle. 9 millions de Français sont désormais concernés, soit plus d'un salarié sur trois.
Aurélien Fleuron du service économie d'Europe 1. Voilà qui va résonner agréablement aux oreilles des commerçants et chefs de très petites entreprises. Les principales organisations de bailleurs demandent ce soir à leurs adhérents d'annuler 3 mois de loyer pour les TPE qui ont dû fermer depuis le début du confinement. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, salue ce geste de solidarité. Plus de 30 milliards d'euros, c'est ce que représente aujourd'hui le coût du chômage partiel en France. Aujourd'hui, c'est Airbus qui a décidé d'avoir recours à ce dispositif pour 3 000 de ses salariés. Mesure instaurée jusqu'au 17 mai et qui concerne, selon la CFTC, les sites de l'avionneur à Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire. Pratiquement la moitié des équipages du Charles de Gaulle et de son escorte testés positifs au Covid-19. Un nombre de cas diagnostiqués qui grimpe donc encore. 1081 marins exactement sur un total de 2300. Des chiffres provisoires donnés aujourd'hui par Florence Parly, la ministre des Armées, sommée de s'expliquer, Hélène Terzian, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Particulier sur la façon dont le virus est arrivé à bord.
Effectivement, face aux doutes et interrogations des députés autour de cette contamination, Florence Parly avance plusieurs hypothèses. L'escale du porte-avions fin février à Chypre, maintenue notamment pour des questions logistiques, mais surtout la dernière escale à Brest du 13 au 16 mars, juste avant le confinement, et qui est au centre des attentions. Une visite des familles prévues à bord est annulée, mais des marins ont vu leurs proches à terre. Des précautions sont alors prévues, dit-elle, pour limiter les risques. En évoquant cette escale, c'est aussi l'occasion pour la ministre de démentir un désaccord dans la chaîne de décision avec le commandant du porte-avions.
Il a été dit que le pacha du porte-avions avait souhaité interrompre la mission du groupe aéronaval lors de l'escale de Brest. Cette rumeur est fausse.
Florence Parly rappelle aussi que c'est le 7 avril qu'elle a été informée pour la première fois par le chef d'état-major de la marine de la présence de cas symptomatiques à bord. C'est à ce moment-là que la ministre prend la décision de mettre fin à la mission du porte-avions et d'anticiper son retour à Toulon. Aujourd'hui, la campagne de tests se poursuit et vous l'avez dit, 1081 marins sont contaminés. Les enquêtes épidémiologiques et de commandement sont en cours. Florence Parly espère obtenir à minima un point d'étape dans deux semaines.
Les explications d'Hélène Terzian pour Europe 1, le Charles de Gaulle contraint de rejoindre son port d'attache Toulon. Le Dixmude, lui, vient d'arriver dans les Antilles. C'est le porte-hélicoptère de la Marine nationale, dépêché sur place pour apporter son aide logistique et sanitaire. Actuellement à Saint-Martin, le navire se rendra demain en Guadeloupe, puis mettra le cap dimanche sur la Martinique. Ce soir, chez nous, dans cette période tragique, un point important souligné par le directeur général de la Santé tout à l'heure. Le nombre de patients en réanimation baisse encore. Et puis, il y a ceux qui, comme Jean-Jacques Déterre, 68 ans, placés sous respirateur artificiel, plongés dans le coma, reviennent à la vie loin de chez eux, mais sauvés. Cet Alsacien en est l'exemple. Il est rentré à Soultzmatt, près de Colmar, après s'être réveillé à l'hôpital de Limoges, où il avait été transféré.
La seule chose que je me rappelle, c'est ce 23 mars, à l'hôpital Pasteur à Colmar, et j'ai vu qu'ils m'ont pris avec le lit et on est parti. Pour moi, la vie, elle s'arrête là. Et je me réveille le 2 avril à Limoges. Vous vous réveillez doucement et d'un coup, là, vous vous sentez pas bien, vous ne savez pas. J'entends juste une petite voix qui me dit « Monsieur Béter, vous êtes à Limoges ». Ils m'ont juste demandé « Vous savez où est Limoges ?» Bon, je dis « Écoutez, c'est qu'une seule chose, qu'à Limoges, on fait de la faïence ». Ça les a fait un petit peu rire. Une fois que j'étais un peu mieux réveillé, donc ils ont des tablettes là-bas pour les malades. Et donc, j'ai pu voir à ma famille « Vous ne pouvez pas dire un mot, hein. Vous pouvez juste pleurer ». Les médecins, ils m'ont expliqué « Ben voilà, que pour moi c'est une nouvelle vie, que j'ai eu de la chance, que je me suis sorti.
Le témoignage touchant de Jean-Jacques, patient alsacien hospitalisé à Limoges et qui a survécu, vous l'avez entendu, au Covid-19 après 10 jours en réanimation. Le confinement, c'est déjà difficile, c'est aussi révélateur d'inégalités. À Marseille, où tout le monde garde en mémoire le drame de la rue d'Aubagne, des associations s'inquiètent du sort d'habitants. Ils sont des milliers qui vivent dans des logements indignes, situation que dénoncent aussi plusieurs architectes et ingénieurs du service de sécurité des immeubles. Dans un courrier recommandé adressé à la mairie, courrier que vous avez pu consulter, Nathalie Chevron, il parle de graves dysfonctionnements.
Oui, une lettre de 4 pages adressée au directeur général des services dans laquelle architectes et ingénieurs affirment que 2600 signalements d'immeubles mettant en cause la sécurité n'ont pas été traités à ce jour, parmi lesquels 230 immeubles pour péril grave et imminent. Manque de moyens, procédures et suivi des dossiers beaucoup trop longs, une situation dénoncée aussi par plusieurs associations représentant les quelques 100 000 Marseillais actuellement confinés dans des logements indignes. Emmanuel Patrice est urbaniste, membre du collectif du 5 novembre.
Il est certain qu'avec cette période de crise sanitaire, les choses s'amplifient, que ce soit en termes d'organisation du service et de capacité de réaction, ou évidemment pour toutes les personnes qui se retrouvent confinées dans des taudis, que ce soit des problèmes d'humidité, de champignons, de saturnisme avec les problématiques de plomb. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont confinées 24 heures sur 24 dans ces logements, et ces signalements-là ne sont pas traités. On a alerté, on a envoyé un courrier au ministre du Logement pour dire stop, il y a un danger, il faut aujourd'hui que, si la mairie n'est pas en mesure d'y répondre, que l'État y répondent.
Et les services de la mairie affirment ce soir qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité de chacun dans les immeubles signalés. Néanmoins, et d'après la Fondation Abbé Pierre, la ville compte 40 000 logements potentiellement indignes.
La correspondante d'Europe 1 à Marseille, Nathalie Chevance. Chez nos voisins européens, on déplore plus de 5 000 morts en Belgique. Situation très préoccupante en Grande-Bretagne aussi, avec près de 14 000 morts. L'Italie semble sortir enfin de la phase aiguë de la pandémie. Record de guérison en une journée marquée tout de même par 575 décès. Épidémie sous contrôle et gérable, ce sont les mots du ministre allemand de la Santé aujourd'hui. Résultat obtenu après un mois de restrictions sociales, comme la fermeture des écoles, mais sans aller jusqu'au confinement strict dans tout le pays. Les réouvertures seront progressives à partir du 4 mai. Hélène Coll, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Sur quel élément se base l'Allemagne pour estimer avoir repris la main sur la pandémie ?
Sur la parole des experts exclusivement qui, eux, surveillent deux indicateurs. D'abord, le rythme de l'épidémie mesuré grâce au taux de reproduction du virus. En clair, c'est combien de personnes un malade peut-il contaminer lui tout seul. Il y a deux jours, quand Angela Merkel a fait sa conférence de presse pour annoncer les mesures d'assouplissement, il était à ce moment-là de 1, ce taux de reproduction. Un malade, une contamination de plus. Eh bien, il est tombé à 0,7 aujourd'hui, ce qui veut dire que le rythme de l'épidémie, qui était stable il y a deux jours, est maintenant en recul. Ensuite, ça fait 5 jours consécutifs que le nombre de guérisons dépasse celui des nouveaux cas. Et donc, mathématiquement, eh bien, il y a moins de pression sur le système sanitaire allemand. Ça soulage un peu les équipes. Certains soignants vont pouvoir prendre des jours de repos pour garder des forces pour la suite, parce que le ministre de la Santé a été très clair ce matin. La pandémie n'est pas terminée. C'est sans doute que le début. Et l'essentiel, c'est d'être capable d'y faire face sur la durée. Et c'est ce qui a l'air de se passer ici en Allemagne. Merkel a parlé d'une victoire d'étape, une victoire fragile. Il faut poursuivre les efforts. Et la stratégie de test qui est appliqué ici très massivement depuis le début de l'épidémie, de façon à repérer les cas le plus tôt possible, les isoler et ainsi éviter la propagation du virus.
Hélène Coll, la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Depuis ce matin sur les réseaux sociaux, et puis vous venez de l'entendre avec Émilie Mazoyer sur Europe 1, ce sont les paroles d'Aline que vous êtes nombreux à reprendre pour dire votre émotion après l'annonce de la disparition de Christophe, âgé de 74 ans. Le chanteur est mort des suites d'une maladie pulmonaire la nuit dernière dans un hôpital de Brest. Angèle Châtelier, vous êtes la spécialiste musique de la rédaction d'Europe 1. Christophe, indémodable. D'ailleurs, les nouveaux talents de la scène française reprennent volontiers ses succès.
Sur chaque chanson de ses deux derniers albums, Christophe est accompagné de Philippe Catherine, Arnaud, Pascal Obispo, mais aussi d'artistes de la nouvelle scène qui reprennent ses tubes ou des chansons qu'il affectionnait. Ici, Arthur Teboul, le chanteur du groupe de rock Feu Chatterton, sur la chanson Le Beau Bizarre.
Quand l'un goût amer, le jour, c'était hier.
Jeanne Haddad, chanteuse de rock et d'électro, victorisée plusieurs fois, chante avec lui sur La Petite Fille du Troisième.
Je vois tout.
Rencontre avec Christophe date d'il y a 10 ans. Jeanne Haddad était dans le public d'un de ses concerts au Palais des Papes à Avignon.
Ça avait vraiment été un choc de ce que ça avait de beau, la musique populaire, dans le sens où à quel point les chansons existaient sans lui en fait, et à quel point elles nous appartenaient à nous.
Dans ce dernier album, il y a aussi la chanteuse Mathilda, 25 ans, qui n'a que quelques titres à son actif, ou encore Juliette Armanet qui reprend avec Christophe Une boule de flipper de Corinne Charby.
Et je suis comme une boule.
Juliette Armanet d'ailleurs, qui n'a jamais caché son admiration pour Christophe et sa musique qui l'a beaucoup influencé. Elle est très émue du décès du chanteur, à en croire ce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Une photo d'eux en noir et blanc avec inscrit dessus la phrase « Un grand amour ».
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule.
Angèle Châtelier pour cet hommage amplement mérité à Châtelier du service culture d'Europe 1. C'est le moment de regarder ce que nous réserve le ciel demain. Et disons-le tout de suite, Anissa Haddadi, cette journée de samedi s'annonce agitée.
Oui Stéphane, effectivement, avec dès le début de journée sur la Corse, la Côte d'Azur et le Golfe du Lion, des entrées maritimes sur le Massif Central, les Pays de la Loire et la Normandie, ce sont des brumes et des brouillards que vous trouverez au lever du jour demain matin. Et puis des Hauts-de-France à la région parisienne, en passant par la Champagne, Ardennes, le Centre, encore la Bourgogne, les averses se déclenchent dès le début de la journée. Au fil des heures, ces averses, elles vont atteindre le Massif Central, la Nouvelle-Aquitaine. Donc dans l'après-midi, le temps, vous l'avez compris, est très humide et orageux sur l'ensemble de la France. En fait, la seule partie épargnée, c'est la façade est. Des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur, et bien là, le temps reste sec, mais très nuageux, puisque le soleil sera souvent couvert par les nuages. Les températures, elles sont douces au lever du jour. 7 à 14 degrés, 8 à Nantes et Toulon, 10 à Bastia et Besançon, 11 à Lille, Saint-Étienne et Nancy, 12 à La Rochelle et Limoges et 14 à Paris. Puis dans l'après-midi, c'est un peu plus frais, 14 à 18 en Bretagne, 16 à 19 au bord de la Méditerranée et 20 à 24 degrés partout ailleurs.
Voilà, et des orages qui éclatent en ce moment même dans le sud-ouest et de Bordeaux d'où je vous parle, ce qui explique peut-être que vous l'avez entendu, les petites interférences dans la liaison. Merci Anissa Haddadi pour ce point météo. Dans un instant, top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com et l'invité éco d'Emmanuel Duteil, bien sûr.
Europe 1.
Claire Lemaître de boursier.com est avec nous pour faire le point, bien sûr, sur la bourse comme tous les soirs. La semaine, Claire, se termine sur une note optimiste à Wall Street.
Oui, c'est une forte hausse pour le Dow Jones, plus 3%, 24 242 points. Le Nasdaq, lui, gagne 1,38%, 8 650 points. Les investisseurs saluent la feuille de route présentée par le président Donald Trump pour redémarrer progressivement l'économie américaine. Ils espèrent que l'activité va reprendre rapidement. Et puis l'espoir d'un traitement du Covid-19 soutient aussi les marchés, même si les essais cliniques sont toujours à des stades préliminaires. Le laboratoire Gilead Science qui planche sur un traitement est surveillé de près. Le titre grimpe de 9,7% grâce à des résultats qui semblent encourageants. Boeing flambe de 15%. L'avionneur va reprendre dès la semaine prochaine sa production d'avions commerciaux aux États-Unis après une interruption de plusieurs semaines à cause de la crise. Ça monte aussi pour les bancaires. JP Morgan bondit de plus de 8%. Mais cet optimisme, il n'est pas partagé par le pétrole qui plonge encore ce soir. Le baril de WTI chute de 8,8%, 18,13 $. Il est au plus bas depuis 2001.
Alors c'est à noter, Claire, la semaine se termine bien. Du côté de la Bourse de Paris également, le CAC 40 est même en forte hausse.
Oui, le CAC 40 qui se reprend après une semaine difficile, il rebondit de 3,42%, 4 499 points. Les valeurs qui montent le plus sont celles qui sont les plus chahutées depuis le début de cette crise. Accor Hotel, le groupe hôtelier bondit de 9%. Dans l'aéronautique, Airbus remonte de plus de 6%. L'équipementier Safran de 7%. Des gains importants également pour ADP, Aéroport de Paris, plus 5,6%. C'est du aussi pour LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Son chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 15% à cause de la crise, mais l'activité donne des signes de reprise. LVMH gagne 4,5% ce soir.
Et autre géant des cosmétiques, L'Oréal également progresse ce soir.
Plus 1,3% pour L'Oréal. Son activité a reculé au premier trimestre, mais le groupe entrevoit une reprise encourageante de la consommation. Ailleurs en Europe, les marchés ont fini en forte hausse. Londres gagne 2,8%, plus 3,1% pour le DAX à Francfort, Milan plus 1,7%, Madrid plus 1,6%, plus 2% pour Amsterdam et le CAC 40 à Paris. Il gagne, lui, 3,4% ce soir.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco en pleine crise sanitaire. On en parlait dans le journal, un sujet majeur de préoccupation pour les commerçants, leurs loyers qu'ils ne veulent ou ne peuvent tout simplement pas payer aux grands groupes immobiliers, aux grosses foncières, comme l'on dit Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam.
Bonsoir Laurent Milchior.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le co-gérant du groupe Etam, qui détient les marques bien évidemment, Etam, Undiz et Maison 1, 2, 3. De façon très concrète, vos magasins sont fermés en ce moment, vous ne vendez qu'en ligne, c'est-à-dire que vous ne vendez quasiment rien ?
On vend quasiment rien, on a effectivement 1397 magasins normalement, on en a 8 d'ouverts. On a la chance d'ailleurs d'ouvrir en Allemagne lundi prochain notre premier magasin qui va réouvrir à Hambourg, et donc on va fêter ça. Donc on fait une petite dizaine de pourcents de chiffre d'affaires en ligne aujourd'hui. Le e-commerce qui est en progression, mais donc c'est effectivement des pertes de 90% de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires qui est un peu inférieur à 1 milliard d'euros. On estime que la perte globale de la période Covid sera autour de 300 millions d'euros pour le groupe.
Est-ce que vous avez eu des indications pour la réouverture progressive de vos magasins en France ? Est-ce qu'à partir du 11 mai, vous rouvrez progressivement ?
Aujourd'hui, on n'a pas d'indication. On essaie de faire des projections. Je pense qu'il y a un petit sujet de dialogue et avec les commerçants et avec leur fédération pour savoir quelles vont être les règles déjà d'ouverture. Est-ce qu'on va limiter le nombre de personnes par mètre carré ? Est-ce que le port du masque sera obligatoire ? Est-ce qu'il faudra des plexis en caisse ? Quel type de désinfectant pour nettoyer les magasins, etc., etc. Donc, on a pris un certain nombre d'hypothèses. On est obligé, nous, de préempter les décisions et d'équiper nos magasins. Donc, on va avoir accessoires, des masques, des visières, du nettoyage de magasins, des compteurs qui permettront de limiter le cas échéant le nombre de personnes dans le point de vente. On est en train de se poser la question sur les cabines, on change notre cérémonial de vente pour pas s'approcher trop des clientes, etc., etc. Le click and collect disponible à l'entrée du magasin pour éviter de rentrer à l'intérieur du magasin. Donc on a pris comme ça un certain nombre de mesures qu'on est en train de mettre en place et on a dû commander le matériel pour la réouverture.
Vous vous mettez en situation pour le 11 mai ou là-dessus vous n'avez pas d'indication?
On pense qu'on ouvrira un certain nombre de magasins le 11 mai. Moi, mon scénario, c'est qu'on ouvrira probablement pas tous nos magasins le 11 mai. C'est pas sûr que les zones très denses seront réouvertes. Je pense qu'il faut attendre honnêtement les courbes. On est avant tout dans une crise sanitaire. Il faut regarder les chiffres de cette crise sanitaire par région. La priorité, c'est clairement de soigner les malades et de pas saturer le système hospitalier. Donc c'est en fonction de ces courbes-là qu'on verra là où on peut réouvrir nos magasins.
Tout ça va coûter plus cher, hein, toutes les mesures que vous mettez en place. Est-ce qu'à un moment, il va falloir augmenter les prix de vos produits?
Non, c'est pas prévu. La réalité, c'est que l'impact est tellement fort. Aujourd'hui, on parle d'une baisse de 300 millions de chiffre d'affaires sur l'année. Les quelques centaines de milliers d'euros que ces équipements vont nous coûter, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il a été d'abord sur les salaires, mais grâce au chômage partiel français qui est assez remarquable, tout à fait remarquable même, on est relativement épargné, même si on a encore des coûts qui tournent puisque on a des salariés qui sont encore au travail, et on a évidemment d'autres coûts récurrents. Le sujet, il est celui des loyers. Nous, un trimestre de loyer pour le groupe, c'est 37 millions d'euros. Pour donner une idée, un groupe comme le nôtre, on devait sortir un free cash flow, un cash flow positif cette année. On estime que post-Covid, on va sortir entre moins 120 et moins 150 millions de free cash flow si on ne paye pas nos loyers, et c'est 37 millions d'euros. Donc vous imaginez l'impact.
Alors pour être précis pour le loyer, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ont raté cette polémique, notamment du côté des centres commerciaux, vous demandez à ce qu'on appelle donc les grosses foncières d'annuler purement et simplement les loyers. Une demande qui a été relayée hier soir par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors lui, il a mis une barre pour les entreprises de 10 salariés. Vous êtes concerné chez Etam?
Alors la réalité, si on écoute les propos de Bruno Le Maire, on a deux façons de le voir. On peut prendre tous nos magasins qui ont moins de 10 personnes en effectif pour toutes les chaînes, que ce soit le groupe Etam ou d'autres acteurs, où on peut se dire qu'on a 4000 collaborateurs en France et donc on a plus de 10 personnes. Donc on va regarder ça d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il parlait des TPE, qu'il faut aider les petites entreprises comme il faut aider les petits bailleurs, hein. Et nous on est en contact avec nos petits bailleurs et on va pas payer zéro à nos petits bailleurs. Par contre, c'est certain que si les foncières veulent demain avoir des acteurs ouverts dans leurs centres commerciaux, il va falloir offrir la gratuité pendant la fermeture. Et c'est même pas une négociation, puisque finalement, nous, on est certains juridiquement de ne pas devoir ces loyers. Donc ça sera un combat juridique terrible, ça sera un encombrement des tribunaux.
De façon très claire, Laurent Melchior, vous, parce que vous pensez que vous avez raison d'un point de vue juridique, vous n'allez pas les payer, même si on ne vous propose pas de ne pas les payer.
Pour l'instant, effectivement, on ne va pas les payer et on va négocier durement. Et je pense que pour l'instant, il y a un mépris de la part et des grandes foncières et du gouvernement de ces 2,6 millions d'emplois dans le commerce non alimentaire, y compris restauration, qui est extrêmement gênant à un moment où le commerce, c'est un facteur de tissu social extrêmement important. Et c'est vrai que les foncières savent se faire entendre, les commerçants ne savent pas se faire entendre. Et pour être honnête, c'est la première fois qu'on est tous solidaires. Gare et Connexion, ça appartient à l'État. Quand l'État maîtrise sa foncière, elle accepte la gratuité des loyers parce qu'elle sait que les commerçants ne peuvent pas s'en sortir. Maintenant, le lobby des foncières font que le gouvernement, Bruno Le Maire, le Premier ministre, n'ose pas leur imposer cette gratuité. Il n'y a pas de solidarité et je vous assure que toutes ces entreprises, qu'elles soient familiales ou non familiales, on se bagarra jusqu'au bout de manière solidaire et pour donner la plus grande chance possible au rebond et de préserver l'emploi des 2 600 000 employés de ces secteurs d'activité.
Et pour être le plus cohérent possible, vous êtes un gros groupe familial. Pas de dividendes chez le groupe Etam cette année?
On fait appel au PGE, donc il y a un certain nombre de règles qu'on respectera.
Donc pas de dividendes.
Donc pas de dividendes. Mais la plupart des entreprises, 95% des commerçants vont demander un PGE. Donc 95% des actionnaires, le prêt garanti par l'État, et donc 95% de ces entreprises ne verseront pas de dividendes, vont avoir un endettement absolument incroyable, un endettement qu'elles devront rembourser. Et cet endettement, il doit permettre de sauver l'emploi, de redémarrer, pas de payer des loyers qui sont indus.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi, 22h20 sur Europe 1.
Merci, Emmanuel Duteil, le rédacteur en chef de l'économie à Europe 1. C'est le moment de jeter un œil sur les unes de vos quotidiens demain. Assez chinoisé, c'est le titre de l'éditorial d'Emmanuel Delahaye dans l'Alsace. Le quotidien régional s'interroge et il n'est pas le seul. La Chine a-t-elle sciemment sous-estimé le nombre de victimes du Covid-19 sur son sol? Notre confrère rappelle une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Le régime chinois est tout, sauf une démocratie transparente et apaisée, écrit-il. À la une de Ouest-France, la photo de cette dame qui paye à la boulangerie avec sa carte bancaire, le paiement sans contact explose, titre nos confrères. Adieu pièces et billets, crise du coronavirus oblige. D'autant que le plafond du paiement sans contact va passer à 50 euros, comme vous l'a révélé cette semaine Europe 1. À lire dans Libération demain, ce très bel éditorial en forme d'hommage à Christophe et dont le titre donne toute l'envergure de cet artiste unique qui vient de nous quitter. Un titre dont Libé a le secret, un esthète dans les nuages. Julien Gester et Didier Perron écrivent « Le monde est un théâtre et comme Baudelaire, Christophe n'y semblait attaché qu'à ce qui s'y trouve de plus beau ». À la une du Figaro, Bill Gates, le fondateur du géant Microsoft et l'homme qui a vu venir la pandémie dès 2015, explique le Figaro. Il avait mis en garde contre le risque d'apparition d'un nouveau virus auquel la planète était mal préparée. Aujourd'hui, le milliardaire mobilise 250 millions d'euros de 250 millions de dollars de sa fondation pour soutenir les efforts de recherche sur les vaccins. Enfin, en Belgique, très durement touchée par le Covid-19, le quotidien Le Soir fait la une sur ses 123 chercheurs qui proposent leur aide aux politiques avec une volonté de la part de ces scientifiques. L'humain doit être une priorité du déconfinement. Vous découvrirez tout cela et plus encore chez votre marchand de journaux demain matin ou sur votre tablette ou ordinateur dans la version numérique.